Ouais, ça va bien.
Planning familial, mais plus particulièrement Alter Educ,
et qui a mené cet après-midi, enfin toute la journée, une journée de formation auprès des professionnels de différentes structures sur les violences ordinaires éducatives. Mais bon, elle est occupée, Carmine, tu fais un petit coup. Voilà. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.
Alors, bien, bonsoir. Est-ce que pour certains, c'est la première fois que vous allez assister à une conférence gesticulée?
Oui.
Oui? Vous pouvez lever la main juste pour avoir une idée? Ouais, génial. Super. Alors, je ne donne pas une définition complète du tout. Je préfère que vous fassiez votre propre définition au fur et à mesure et à l'issue de cette conférence. Ce ne sont pas des conférences qui sont données par des experts, hein, je ne suis spécialiste de rien du tout. Ce sont des gens comme vous, comme moi, qui à un moment ont envie de dire certaines choses. C'est une façon de se donner à nous la légitimité de la parole, donc de prendre la parole en tant que citoyen. Et quoi dire d'autre, c'est tout. Il y en a à peu près 350, il paraît, hein, je le dis. Voilà, 350 gesticulants, ça gesticule beaucoup. En fait, on ne gesticule pas comme ça. On incarne un propos. Voilà. À travers notre vie aussi. Je vous laisse. Ça va? Vous êtes prêts? Parce que je suis un peu bavarde. Un peu plus fort pour le fond de la salle. Même pour le milieu de la salle. N'hésitez surtout pas à me relancer avec un petit geste. Si besoin. Dis-moi, tu veux un câlin ou une fessée? Qu'est-ce que c'est que ce caprice là? Allez, fais un bisou. Arrête de faire ton timide. Dis bonjour à mamie. Et c'est pas comme ça qu'on mange. Tu prends ta fourchette, tu arrêtes de gigoter tes pieds, tu te tiens correctement. Et baisse les yeux quand je te parle. Tu peux pleurer, ça changera rien. Tu as été sage? C'est bien, mon chéri. Écoute, si t'es pas gentil, rappelle Père Noël et puis c'est tout. Comment ça, tu n'as plus faim? Tu plaisantes? Tu finis? Tu veux pas mettre cette robe? Pour faire plaisir à maman. Tu vas t'en prendre une, saura pourquoi tu pleures. Et stop, là-haut, pour qui tu te prends? Bravo, c'est bien, mon chéri, je suis fière de toi. Pas de plat, pas de dessert, tu connais la chanson. Oh, ça va, tu vas pas pleurer pour ça, quand même. Mais non, tu n'as pas mal. Et tu arrêtes de répondre et baisse les yeux quand je te parle. Prends tes gants, ton sac, monte, reste assis, arrête de bouger, travaille bien, arrête de crier, fais un bisou, dis bonjour, ne cours pas, fais tes devoirs, reste tranquille, ne touche pas, sois sage mon chéri, tais-toi. Maintenant tu dors, finis ton assiette, monte dans ta chambre, enlève ton manteau, en rang deux par deux et personne ne bouge. Maxime, tu arrêtes tout de suite de rigoler ou tu vas au coin. Louise, tu fais un bisou pour dire pardon. Tu fais un bisou et tu t'excuses maintenant. Tu chahutes? Tu vas manger tout seul là-bas. Tu lui as fait mal, tu as fait mal. Tu pleures, tu vois, c'est pas drôle, mais c'est comme ça la vie. Faites ce travail tout de suite. Dans une heure, vous venez dans mon bureau. Dites, vous faites exprès d'avoir traîné pour appeler ce client là? Oh, combien de fois je vous l'ai dit. Vous vous fichez de moi. Et comme vous avez tous bien travaillé, le chiffre d'affaires est excellent. Vous aurez tous droit à une prime. Bravo, vous êtes les meilleurs. Vous les connaissez les échéances? Oh, mais pour qui vous vous prenez là? Faites pas votre mauvaise tête. Bravo, les quotas ont été atteints. Mais dites, serrez-moi la main le matin. Oh, c'est pas de ma faute si vous êtes incapable. Mais faites pas cette tête, enfin. On dirait un enfant qui vient de se faire gronder. Ça va toujours? De la violence éducative ordinaire à la violence de l'humanité. C'est le sous-titre de cette conférence. Avant de faire une conférence gesticulée, je parlais déjà de la violence du monde. J'étais comédienne et en 10 ans, on a brassé pas mal de sujets. On a parlé de la Commune de Paris, hein, une révolte populaire qui s'est terminée dans un bain de sang. Alors je vais noter des petits mots comme ça, je vais les afficher tout au long de la conférence. Voilà, pour égayer mon propos. On a parlé d'exil aussi. L'exil, parce que c'est la guerre, c'est la misère dans certains pays, alors les gens partent. C'était un gros morceau, ça aussi. Ensuite, on a fait une création au sujet des souffrances au travail. vous savez, belle violence de notre monde moderne. Voilà, et j'en passe. J'en passe. Et en 2014, on a créé un spectacle sur l'insoumission dans les deux guerres. Moi, j'interprétais le rôle d'une résistante en 42, et mon partenaire de scène interprétait le rôle d'un poilu, plus précisément d'un mutin de 1917, vous savez, un insoumis, un de ceux qui a refusé de se battre. Le spectacle s'ouvrait sur la traque de mon personnage, par les Allemands. Je me plantais devant eux, et je leur chantais une chanson. Pour qui, comment, quand et pourquoi? Contre qui, comment, contre quoi? C'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. En fait, dans cette chanson, il y avait un peu toutes les questions que je me posais à force de me pencher sur des sujets atroces. Je me disais, bon sang, pour qui, pourquoi, pourquoi toute cette violence partout, tout le temps? Est-ce que franchement, l'être humain n'est bon qu'à ça? Et à s'y soumettre par la même occasion, qui est juste l'autre revers d'une même pièce, pour moi. J'en étais là. Nous sommes le 15 février 2015. Je suis dans l'eau chaude de la piscine d'accouchement à la maison. Je suis shootée aux hormones. Ça fait 2-3 heures que je suis propulsée dans un monde parallèle, vous voyez. Et c'est très bien fait. Alors, il y a l'ocytocine pour provoquer les contractions, il y a l'endomorphine pour accompagner la douleur. Et ouais. Il en faut une bonne dose d'endomorphine parce que la contraction, quand elle arrive, là, elle te chope comme ça. Oh, elle t'arrache du sol. Et là, tu te dis, attends, qu'est-ce qu'elle t'a dit déjà, la prof de yoga? Ah oui, elle t'a dit, respire. Surtout, prends la vague, tu vois. Parce que la contraction, en fait, si tu la prends de face, c'est encore pire. Ouais, donc surtout, lâche, elle t'a dit, lâche prise et fais confiance. Waouh. J'ai un souvenir absolument merveilleux de ce moment-là, bizarre. Ouais, lâcher, faire confiance. Alors ce mot aussi, je vais le noter, pas l'oublier. Et je vais noter, je vais mettre également ce panneau avec des mots qui, pour moi, vont avec. On y reviendra. Je peux prendre le temps de le découvrir. Hein. On y reviendra. Qu'est-ce qui se passe? Faire confiance. 2 mois avant la piscine, là, le téléphone sonne. Oui, allô, salut, c'est Nicolas. Alors, Nicolas, c'est mon beau-frère, le frère de mon compagnon, Julien. Ouais, dis-moi, vous m'aviez pas dit, là, pour l'accouchement, que vous vouliez le faire à la maison? Ah oui, c'est ce qu'on a décidé. Ouais, et t'as vu maman, là, récemment? Ah non, parce qu'elle va pas bien du tout, hein. Non, non, mais attends, elle est super inquiète. Non, mais vous vous rendez pas compte ou quoi? Comment vous pouvez lui faire vivre un truc pareil? Non, mais elle se fait vachement de soucis. Et pour l'accouchement, s'il se passait quelque chose... Ah oui, s'il se passait quelque chose. Bon, apparemment, il va se passer quelque chose. Ce jour-là, surtout, je comprends que Nicolas et sa maman, donc ma belle-mère, Martine, ont peur au sujet de l'accouchement. Et c'est normal de se faire des soucis pour les gens qu'on aime. Je vais noter ceci, un peu plus bas. Et puis, on va voir un petit peu... Ouh, ça marche pas, c'est ça. On va voir un petit peu... au long, hein. Où se cache la peur, où se cache la confiance. Bon. Un jour, donc, dans ma salle de bain, j'ai appris que j'étais enceinte. Waouh. Alors, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, qu'est-ce qui va sortir, là? C'est... Faut faire quelque chose. Je suis un petit peu perdue. Alors c'est marrant parce que quelques jours après, j'en ai parlé à une copine qui me répond « Non, mais t'inquiète, tu sais, être parent, moi, je crois, franchement, c'est instinctif. » Et moi, ce jour-là, mais j'avais pas du tout la sensation que c'était instinctif. Donc, à tout hasard, j'ai ouvert un livre. Celui-ci. « L'éveil de votre enfant », Chantal de Truchis. Alors, à l'intérieur, on y parle de motricité libre. J'avais jamais entendu parler de ça. Ah, comment votre enfant va-t-il se mettre à marcher? Ah bah oui, tiens, ça c'est intéressant. Poussé par son élan de vie et sa curiosité naturelle, un jour, votre enfant va se mettre à plat dos, puis à plat ventre, puis à plat dos, puis à plat ventre. Vous n'avez rien à faire. Parfait. Un peu plus loin, toujours poussé par son élan de vie et sa curiosité naturelle, un jour, votre enfant va se mettre assis. Vous n'avez rien à faire. Génial. Et enfin, un peu plus loin, toujours poussé par son élan de vie, blablabla, votre enfant va se mettre debout et faire ses premiers pas. Vous n'avez rien à faire. Ah, si ce n'est lui faire confiance. Waouh. Petit enfant nouveau-né adore se promener nomade sur des hanches balancées ou sur un ventre dansé nomade. Petit enfant du désert vogue, vogue sur sa mère nomade. Elle ne le pose jamais, le sable l'engloutirait nomade. Et pendant toute ma grossesse, je chante cette chanson. Et tout en chantant, je lis. Je lis, quoi. Et alors, c'est drôle parce que avant, c'était pas mon truc la lecture. Mais vraiment. Mais vous savez, c'est comme les enfants quand ils trouvent quelque chose qui les intéresse, on les arrête pas. Hein, c'est la motivation intrinsèque, ça, on y reviendra. Bon, sauf que je n'ai pas très envie de les laisser là parce que, vous savez, une conférence gesticulée, c'est un outil d'éducation populaire. Et je trouve que ça fait un peu librairie, et ce n'est pas très éduc-pop, ça. Donc, je vais les mettre par terre, comme ça, on ne les oublie pas. Hein, et puis, je vais faire des petits chemins. Alors, mais je ne fais pas que lire, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, bah, Internet. Donc, je farfouille sur Internet... J'achète des magazines aussi, je lis des interviews, je regarde des vidéos, enfin vraiment, j'y vais, quoi. Et je tombe sur le site de l'Observatoire des violences éducatives ordinaires. Comme la motricité libre, hein, j'avais jamais entendu parler de ça. Bon, qu'est-ce que c'est? Il y a les maltraitances, ok? Je ne vous fais pas le tableau, il y a des enfants qui en meurent, voilà, partout dans le monde, beaucoup en France. Chaque jour, presque. Donc, ça, ok. Et puis, il y a la partie invisible de l'iceberg. Il y a toutes les choses qu'on fait sous prétexte de donner une bonne éducation aux enfants pour bien leur montrer dans quelle direction aller parce que c'est pour ton bien, mon chéri. Ce sont des choses qu'on fait sans le vouloir, sans savoir que c'est de la violence. Et là, je découvre tout ça. Je découvre surtout qu'il y a apparemment une foule de... J'ai un petit panneau. De malentendus. Au sujet des enfants. Qui donne lieu à une espèce de gigantesque malentendu à leur sujet. Peut-être même à un malentendu au sujet de la nature humaine. Il y a une foule de croyances aussi que je découvre. Bon. Et puis je me mets à observer autour de moi. Je me dis, bon sang, c'est vrai, on se comporte avec eux, on s'adresse à eux d'une manière dont on le ferait avec personne, pas un ami, pas qui que ce soit, les enfants. Et là, je fais des liens, je me rends compte bien sûr que je ne suis pas la seule, évidemment, à me poser ces questions, avec toute cette histoire, cette question sur la violence, pourquoi? Et si c'était dans l'enfance qu'on favorisait un terreau parfait pour reproduire, perpétrer toutes les formes de violence, verbale, physique, psychologique, sociale, économique, politique, écologique, toutes. Et si c'était pas dans l'enfance qu'on fabriquait ce terreau parfait pour apprendre aux individus sans le vouloir, sans savoir à se soumettre à toute cette violence? Bien, bon, il n'y a pas de parent parfait, hein, cela dit. On est d'accord? Vous avez remarqué, vous aussi? Bon, c'est dommage, quelque part. Mais en même temps, non. Se tromper, rater, c'est possible. On peut même le dire aux enfants, si on n'a pas peur de de se faire déborder. Non, on rate, on recommence. Ouais. Des parents authentiques, par contre, qui cherchent, qui essayent, ouais, ça, ça existe. Ouais. Peut-être vous, dans la salle, tu vois. Ça, c'est un cahier qui appartient à Madeleine, donc ma fille. On lui raconte notre vie, sa vie, de toute petite fille, nos doutes, nos rêves, nos espoirs, et puis nos échecs. Là où on se rate. Novembre 2018, c'était il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine, je t'ai dit que je souhaitais suivre l'atelier de yoga qui a lieu dans notre village. Tu m'as demandé « Pourquoi tu veux faire du yoga, maman ?» Je t'ai répondu que ça pouvait me faire du bien pour prendre soin de moi, que ça pouvait peut-être m'aider à être moins souvent énervée contre toi ou papa. Il y a 2 jours, alors que je commençais à lever la voix, ta bouche a commencé à se tordre parce que tu devais trouver cela injuste, sans doute. Et dans un immense sanglot, tu m'as dit « Mais pourquoi ça n'a pas marché, le yoga, avec toi, maman ?» Je suis littéralement tombée à genoux, à ta hauteur. Je t'ai pris dans les bras et j'ai eu, à ce moment, la sensation de tenir un cristal précieux contre moi. Et j'ai détesté constater que j'avais tout autant le pouvoir de te crier dessus que celui de te prendre dans les bras. Et que tu acceptais tout cela. Que peux-tu faire d'autre à 4 ans à peine? Voilà. J'ai beaucoup lu. Je ne suis pas moins incompétente. Ok, parce qu'on les aime, nos enfants, d'accord ? Ouais. On veut le meilleur pour eux. Alors, si vous voulez bien, parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, toujours avec les enfants, il s'agit toujours de ça. Donc, on va le faire en grand. Et je voudrais bien qu'on partage comme ça, à la volée, des choses, des mots. Qu'est-ce que c'est ce meilleur qu'on veut pour eux dans leur vie ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils souhaitent ? Je vous écoute.
La sollicitude.
L'accompagnement.
L'accompagnement. D'autres choses ?
L'épanouissement.
L'épanouissement. Alors. Voilà, vous mettez à dure épreuve. J'ai pas réussi. Autre chose ?
Heureux.
Qu'ils soient heureux.
Bien dans leur peau.
Bien dans leur peau. Ça rentre pas dans la
peau. Tant pis, hein.
Le masque. Bien dans leur peau. Ouais. D'autres choses.
De l'humour.
De l'humour. Comment ? Qu'ils soient intégrés socialement. Qu'ils fassent partie du... Alors, je vais noter avec ce mot. Qu'ils soient intégrés. Oui ? Comment ? Ah oui. Alors ça, on souhaite avec ferveur. Oui.
Reliés.
Qu'ils soient reliés.
Eux-mêmes.
Qu'ils soient eux-mêmes. Qu'ils soient compréhensibles. Envers les autres.
Oui.
Envers eux-mêmes aussi. Oui.
Ah oui.
Envers les parents. Oui. D'autres choses.
Créatif.
Créatif. Oui.
Insouciant.
Insouciant. Chaud. Ne pas avoir de soucis, c'est ça?
Curieux.
Ouais. Curieux. Ok. C'est marrant comme la santé, ça sort pas facilement. Pourtant, je le note pour moi, d'accord ? Moi, j'y tiens quand même.
Qu'il soit libre aussi, ça va
être. Libre ! Ok, bon, on pourrait continuer un bon moment, on souhaite ça et plein d'autres choses. Si on a déjà tout ça, c'est beau. Donc, maintenant qu'on est d'accord là-dessus, on y va. Bon. Donc, moi. Un jour de février 2015, j'ai accouché d'un enfant, une fille, toute petite. Ce jour-là, son cerveau, est-ce qu'il était mature ?
Non.
Non. Et non. Pour fonctionner, le cerveau humain, en fait, a besoin de connexions neurologiques. Vous savez, le cerveau d'un adulte possède à peu près 300 000 milliards de connexions neurologiques. Le cerveau d'un enfant d'environ 5 ans possède, lui, 1 million de milliards de connexions neurologiques. Beaucoup plus que le nôtre. Ouais. Parce qu'entre-temps, il y a ce qu'on appelle l'élagage. C'est tout ce qui n'est pas utilisé fréquemment est détruit. Mais pour avoir autant de connexions dans un si petit cerveau, en fait, on s'est rendu compte qu'entre 0 et 5 ans, à peu près, le cerveau humain va fabriquer entre 700 et 1000 connexions secondes. C'est-à-dire que tout ce qu'il touche, voit, entend, perçoit, ressent, déduit, tout va créer une connexion et des ensembles de connexions, des chemins neurologiques. Comme si là, vous voyez, mes livres, c'était les neurones. Et tchic, entre comme ça, tac, ça se crée et ça circule. Tout ce qui n'est pas utilisé fréquemment est détruit. En revanche, tout ce qui est utilisé, vu, pratiqué régulièrement, renforce les chemins neurologiques et on devient expert. On dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, vous savez, mais c'est physiologique. Hein, voilà. C'est en pratiquant qu'on devient expert. Ok, mais comment ça se passe, toutes ces choses, tous ces apprentissages pour l'enfant, comment il va les construire, ces connexions? Comment un enfant apprend, à votre avis? Je vous écoute. À des mots comme ça.
Par le mimétisme.
Par le mimétisme, il imite.
La répétition.
Il répète. Là, ouais, tu construis. Fait.
L'observation.
Il observe, ouais. Voilà. Effectivement.
Oui. Il touche.
Il touche.
Il joue.
Il joue. Oui, il apprend dans l'enthousiasme, comme tout le monde.
Dans la relation.
Dans la relation, ouais. Dans le lien. Il essaye, ouais, l'expérimente. Il rate, du coup, ouais, l'échec.
Le ressenti, l'émotion.
Ouais, l'émotion, ouais. Ouais. L'impact émotionnel, ouais, dans l'émotion. Oui, d'autres choses?
La joie.
Ouais, dans la joie, ouais. La joie. Vous êtes tous à apprendre. D'autres choses?
L'envie,
ouais, voilà, motivation intrinsèque. Ils en ont des kilos de tonnes, les enfants. Ok, bon, plein d'autres choses, mais vous avez dit les bases. Et je m'arrête sur l'imitation, c'est ce qui sort en général en premier ou en deuxième. Ben oui, on le sait, ça, voilà. Tout ça, c'est simple, c'est parce que dans le cerveau, il y a dès la naissance la présence de neurones miroirs. Hein. On les connaît un peu maintenant, c'est-à-dire que quand je fais ça, quelque part, dans votre cerveau, vous faites ça aussi. Alors, vous ne le faites pas là parce que vous n'avez pas l'utilité de le faire. Et vous avez aussi la zone d'inhibition du geste. Contrairement à un tout petit enfant, même jusqu'à 3 à 4 ans, ça reste très fragile. Et alors, à quelques heures de vie, un petit enfant, vous faites l'expérience, tirer la langue, dans l'immense majorité des cas, il va reproduire. C'est une impulsion pour apprendre. Ok. C'est extrêmement intéressant cette histoire de neurones miroirs parce que finalement, on se dit, bah voilà, tout simplement, plus il voit les choses, plus ils les impriment et plus ils sont en marche pour les reproduire naturellement. C'est assez simple finalement comme mécanique. Donc on se dit, bah, il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à être ce qu'on aimerait qu'il soit. C'est pas très compliqué en fait, je dois dire. C'était il y a à peu près, bon, je sais plus, quelques mois, je l'ai noté dans le cahier, la Madeleine m'a dit: en me voyant fumer, plus tard, quand je serai grande, j'apprendrai à fumer maintenant. Je crois que j'ai mis à peu près 10 secondes avant de réagir. Et je n'ai toujours pas arrêté. Je la fumerai après. Mais ces neurones miroirs, on s'est rendu compte que non seulement ils étaient en activité au sujet de la motricité, mais également quand on avait affaire à une émotion en face de nous. Hein. On a cette capacité à avoir de la résonance émotionnelle, à éprouver quelque part l'émotion de l'autre. C'est pratique d'avoir cette lecture, cette capacité-là pour comprendre ce qui se passe autour de nous, peut-être adapter son comportement, pour vivre ensemble en fait. Et ça a un mot, ça a un nom, ça s'appelle
l'empathie.
Ouais, l'empathie. Dès la naissance, c'est présent. Je ne dis pas qu'un tout petit nourrisson va réussir à adapter son comportement, hein, ça demande un processus cognitif après beaucoup plus complexe, mais il a la base, il a les clés, la base, la lecture pour ça. Madeleine avait 14 mois, on faisait un jeu ensemble et à un moment, en jouant, je fais semblant de pleurer. Elle se lève comme ça et elle vient me caressait le front. Ouais, j'étais en train d'apprendre tout ça, je me disais, ah. Quand j'ai raconté ça à ma grande sœur, elle me dit, bah oui, bah, tu la consoles quand elle pleure, donc elle fait pareil. Et, bah oui, justement. Et c'est là que je comprenais tout l'intérêt qu'il y avait à prendre soin de ses émotions, comment lui transmettre naturellement, prendre soin des émotions des autres et des siennes, par la même occasion. Et puis, ça a plein d'autres vertus. Voilà, et après ce jour-là, je me souviens très bien, on était au parc avec Madeleine, et on voit un papa avec ses deux fils. Le plus grand, tout à coup, se met à taper sur le petit. Le papa se retourne et il lui dit « Tu arrêtes tout de suite de taper ton frère, sinon je t'en colle une !» Et moi, j'étais en train d'apprendre tout ça, et en fait, les neurones miroirs, il n'y a pas de mode « off », hein, on ne peut pas les éteindre, ils sont tout le temps en activité. Et donc, pendant ce temps-là, je me disais, on devient expert. Bon. Alors, le cerveau. On s'arrête un petit peu dessus, mais alors vraiment, c'est très compliqué. Hein. Je vais vous faire ça en très très gros, hein. À la louche, quoi. S'il y a des neurologues dans la salle, excusez-moi. Il n'est pas mature, d'accord. Toutes les parties ne sont pas matures. Le cerveau... système archaïque, là, qui gère toutes les fonctions vitales, c'est bon. Cœur, poumon, digestion, tension artérielle, ok. Cerveau de la survie, tout va bien. Plus haut, il y a le système limbique, qu'on appelle aussi le cerveau émotionnel. Et pour cause, c'est là qu'est reçu tout ce qui est vécu d'agréable ou désagréable. Et à l'intérieur, il y a une petite glande qui s'appelle l'amygdale, qui va recevoir les informations et par un système d'hormones très bien fait, envoyer au corps un tas d'infos, un tas d'hormones pour lui permettre de réagir. Ok, ce système-là, il est parfaitement mature à la naissance aussi. Et c'est bien, comme ça, un petit enfant peut se manifester quand il a peur, faim, froid, soif, pour qu'on prenne sa vie. C'est très pratique, c'est assez fatigant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça usant, mais c'est très pratique. Un peu plus haut, et ben là, c'est là que ça se complique, le néocortex, là, tout celui qui, la partie qui va gérer les choses plus fines, comme l'analyse, la planification... la maîtrise de l'espace, la créativité, l'anticipation, etc. Tout cet ensemble, il n'est pas du tout mature. Et sous votre front, dans ce grand ensemble, il y a un lobe, sous le front qui s'appelle le cortex orbitofrontal, le COF. C'est là que se passent tous les processus d'empathie, relation à l'autre, régulation des émotions, prise de décision et sens éthique. Ok ? Et alors, tout cet ensemble est absolument à la ramasse. Le lobe frontal va mûrir jusqu'à à peu près 25 ans. Donc, c'est dire le chemin qu'il y a à parcourir. Et ce qui n'existe pas non plus, ce sont les liaisons entre ces différentes parties. Par exemple, entre le cerveau émotionnel, parfaitement mature, et le lieu de la régulation des émotions. Que se passe-t-il donc quand, au supermarché entre les mouchoirs et les brosses à dents, Madeleine, 2 ans à peu près, voit une peluche à gros yeux sur les rayons et me dit « Je veux ça !» Et que je lui réponds « Ah, elle est bête, cette peluche, on va la laisser au magasin. » Qu'est-ce qui se passe? C'est la crise, comme on dit vulgairement. Voilà, ça c'est la frustration qui arrive dans le cerveau. Ok, très vite. Évidemment, chez les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ça se transforme, même pour nous, hein, ça se transforme en colère. L'émotion arrive dans le cerveau et là, elle monte l'émotion. L'hormone du stress là, est envoyée, l'amygdale est en total... voilà, ça ne va pas du tout. Il n'y a rien pour l'arrêter, en fait. Hein. C'est que cérébralement, ce n'est pas possible. Alors, premier malentendu, qu'est-ce qu'on peut se dire? Elle fait un caprice. Alors, ce n'est pas qu'elle ne... veut pas s'arrêter, c'est qu'elle ne peut pas. Ok, bon Madeleine, maintenant ça suffit, tu viens avec moi, on est pressé, tu arrêtes ton truc. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Moi je pense à peu près un truc comme ça a priori. Ok, c'est encore pire, c'est un peu comme les contractions quoi. Si on attaque frontal, on en prend plein la tête. Donc alors là, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Est-ce que vous avez des idées?
Un câlin.
Ça va pas ou quoi? Attends, elle me pourrit les courses là. Tu veux que je lui donne de l'amour à ce moment-là?
Je suis pas là.
C'est une blague, bien sûr. Oui. Elle est en train de faire quelque chose qui nous complique un peu la vie. Ok. Sauf que le câlin, ça procure de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour. Ok. Elle a beaucoup, beaucoup de rôles, cette hormone-là. Notamment celui d'aider l'amygdale à s'apaiser. Ouais. Ouais, ça accompagne un peu. Ça ne suffit pas forcément, ok, mais c'est hyper important. On s'est aussi rendu compte que si, ça ne va pas se calmer tout de suite, l'ocytocine fait maturer les connexions neurologiques de tout l'ensemble cognitif, dont aussi l'endroit de régulation des émotions. Donc si on ne sait pas quand est-ce qu'elle va réussir à réguler ses émotions toute seule, on peut essayer d'accompagner ce processus pour que ça arrive le plus vite possible. Donc, ok, câlin. C'est intéressant. J'ai entendu autre chose ? Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui, oh là là, mais regarde par là, c'est ça. Oui, alors, c'est vrai qu'on peut faire ça. Moi, je le dis souvent, j'essaie de le faire un peu dans un deuxième temps. Mais j'y reviens tout à l'heure là-dessus. C'est intéressant. Il y a d'autres idées ?
Puis-je dire, je comprends tout ça.
J'ai pas entendu quelque chose. C'est une blague. Comment ? Je n'ai pas les sous. Ça peut être une solution parfois, si on a envie. Mais j'y reviens aussi là-dessus. Et il y a dire.
Je comprends que tu sois en colère.
Ouais.
Essayer de parler ou de la faire parler.
Nommer en fait. Mm-hmm. Nommer. Pourquoi? Vous savez, on dit ouais, c'est important de s'exprimer dans la vie. C'est bon pour la santé. Ben oui. En fait, ça aussi, c'est une chose dont on s'est rendu compte que nommer accompagne aussi l'amygdale à redescendre. Ça ne suffit pas forcément sur l'instant. Mais nommer, ça permet de donner du vocabulaire. C'est quand même pratique pour eux. Qu'est-ce que je ressens là, comment ça s'appelle? De rester aussi en lien. Qu'est-ce qui se passe quoi, avec toutes ces émotions? Et c'est pratique pour la vie future. Hein, de comprendre ce qui se passe. Ça ne suffit pas sur le moment. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que... D'autre?
Laissez pas.
Laisser. Ouais. Lâcher prise. Faire confiance que ça va prendre du temps, tout ça. Ouais. Et on s'est aussi rendu compte que plus on laisse faire dans cette écoute, juste même pas forcément un câlin, juste de l'écoute, ok, nommé, sans pression, c'est un cycle, en fait. Je fais une parenthèse, oui, sans pression, oui, c'est gentil. Alors là, on est en salle de conférence, on est bien tranquille. Non, là, on est au supermarché, en fait. Et on n'est pas tout seul au supermarché. Hein. Il y a les autres autour. Hein, et qui passent dans les rayons en disant, ça mériterait une bonne... et ça serait réglé. Et s'accrocher à cette confiance de dire, moi, quelle relation je veux construire là maintenant avec cet enfant. Ouais, c'est un gros, gros challenge, ça. Ouais, la pression sociale et tout. Mais laisser, parce que c'est un cycle, l'émotion. Pas que chez les enfants. Il y a le temps de charge chez tout le monde. C'est la contrariété, le truc qui va nous tracasser. Il y a la tension, c'est le temps que ça dure. Ça peut durer une minute dans le supermarché, deux mois, deux ans, dix ans. Après, on craque. On fait un burn-out. Enfin, un caprice, quoi. On pleure, on crie, on rit, on fait ce qu'on veut. Et puis après, seulement... Le corps et l'esprit peuvent retrouver l'équilibre. Ça se voit, c'est physiologique aussi, ces choses-là. Ouais, les pleurs, en fait, ça répare quelque chose qui est abîmé. Okay. Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes, elles lavent, elles désarment ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces torrents qui les apaisent. Et s'en vont noyer les braises de leur chagrin insensé. Laissez-les empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs arrosées. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Ouais, alors pour lever tout de suite un potentiel malentendu, laissez pleurer, ok, en étant présent, tout ça. Pas laisser pleurer, je veux dire, en toutes circonstances. Par exemple, ma voisine m'avait dit nous, on a laissé pleurer 3-4 soirs et ça a été réglé. Le dodo, là, vous savez, le soir. Mais oui, ça marche en fait. C'est clair. Ça marche. Parfois, ce qui marche avec les enfants à court terme, c'est pas super compatible avec ce qu'on souhaite pour eux à long terme. Tu peux pleurer, ça changera rien. Ah bon ? On peut exprimer nos révoltes, tout ce qui nous rend tristes dans le monde, et ça changera rien. On n'a aucune puissance là-dessus. Difficile après d'être convaincu qu'on a peut-être une place, un rôle, une légitimité à dire nos révoltes, qu'on peut peut-être faire quelque chose. Quand cette phrase, combien de fois suggérée, voilà, a été bien intégrée. Moi, ça me pose beaucoup cette question-là. Mais c'est dur de faire changer les choses dans le monde. Donc, je veux dire, c'est dur de faire face aux émotions, aux détresses, aux révoltes des enfants. Ouais. Vous savez, les parents, ils aiment souvent raconter des anecdotes. Hein, ils adorent ça. Oh, quand tu étais petite. Quand tu étais petite, tu dormais mal, me dit ma mère. Et une nuit, j'étais tellement épuisée que j'ai pris ton berceau et j'ai fait tu vas dormir. Oh, mais tu t'es calmée tout de suite, tu t'es endormie. Me dit-elle avec un grand sourire. Ma chérie, je t'écris ce soir parce que je suis assez effrayée par moi. Il y a beaucoup de choses qui ne me posent pas de problème. Quand je ne suis pas trop fatiguée. Mais je n'en peux plus de passer tout ce temps le soir avec toi. Ce soir, j'ai crié, encore, fort. Et encore une fois, tu t'es mise sous la couette et tu n'as plus bougé et tu t'es endormie. Ça m'a effondrée, encore une fois. On va trouver une solution ensemble pour que ça ne se reproduise plus. Bon, c'était il y a un an et demi. J'ai échoué au challenge, hein, ça s'est reproduit de différentes manières. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que j'ai oublié de vous dire une chose sur l'amygdale. L'amygdale, dans notre système limbique, aussi dingue que ça puisse paraître, l'imagerie cérébrale nous montre que toute notre vie émotionnelle est stockée là-dedans. C'est une sorte d'archive, de grande bibliothèque. Et ce que nous montre aussi l'imagerie cérébrale, c'est qu'elle se réveille dans les situations similaires à celles qu'on a vécues enfant ou dans les situations traumatiques. On monte bizarrement en pression, vous voyez, parce qu'elle s'active et elle guide nos comportements. On agit par impulsion, parce qu'on est nous-mêmes, pas en capacité de faire autrement. On a aussi construit nos chemins parce qu'on est devenu expert dans ce qu'on a vu, entendu, vécu. Voilà, alors bien sûr, il y a plein de manières de reconstruire les chemins. Déjà, peut-être savoir ce qu'il y a dans cette amygdale, c'est un premier pas, dans les archives, là, dans la bibliothèque. Ça, c'est une grande histoire. Mais combien de fois je suis montée avec Madeleine pour le soir et combien de fois je me suis dit cette fois, tranquille, ça va passer, ça va pas durer toute la vie. Cette fois, tu l'accompagnes juste. Et combien de fois je me suis pris un mur avec un truc immense, voilà, qui me dépassait. Bon. Ça va ? Ça vous dit quelque chose, tout ça, ou... qu'est-ce que quoi ? Voilà. Avant de savoir tout ça, là, au sujet des émotions, je reste un peu sur les émotions, parce que c'est quand même un gros dossier avec les enfants, hein, n'est-ce pas ? Bah avant, je pouvais avoir, avec toutes mes bonnes intentions, peut-être le réflexe de quand je voyais un enfant pas bien, qui pleurait, tout ça, de dire, je suis non mais c'est bon, c'est fini, ça. Voilà, oh, regarde autre chose, de détourner l'attention, alors que là, ça va pas du tout, il y a quelque chose qui se passe. Et je me dis, quand c'est comme ça, on met pas de mots, comme on disait tout à l'heure, hein, pour donner du vocabulaire, tout ça, non, on met des... Faut pas pleurer, on est des colères, vous voyez. Et après, je trouve qu'on est assez fort dans la vie pour nier nos émotions, hein, les oppresser un peu. Parce que, ouais, comment cette situation si souvent vécue, comment est-ce que les enfants pourraient continuer à exprimer légitimement ce qu'ils ressentent, etc. Comment on peut apprendre à savoir ce qui se passe. Bref, donc on est assez fort pour nier tout ça. C'est dans ce livre d'Olivier Morel, là, oui, la nature humaine est bonne. C'est un peu gonflé, hein, mais il a des bons arguments. Il écrit à un moment, À défaut d'être, on désire avoir. À défaut d'être dans toutes ces dimensions, avec tout ce qui est vivant chez nous, les émotions. Il dit on se venge facilement sur l'avoir. On crée des grands vides d'être. Et après, il faut bien les combler, ces grands vides. Vous n'avez pas cette sensation d'être dans cet amalgame, dans l'air du « je possède, donc je suis ». Être et avoir. Ouais. Ou plutôt, je dirais, avoir plutôt que être. Je vous propose 3 minutes de bonheur. Ça vous va? Alors, est-ce que ça marche? Ah non, c'est pas sûr. Non, pas du tout. Ah, bah, tiens. Ok.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô, allô, ah, tu vas bien, c'est parti. C'est de luxe. En ce moment, c'est la semaine luxe. Et le caviar Bailly est à 7,49€ les 10 grammes. 7,49€ les 10 grammes. C'est le vrai prix. Du caviar français sans OGM. Avec sa petite cuillère à plus, les fins gros mécanismes vont apprécier. Hein.
On a vraiment des partout.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 749€ le kilo, origine France. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks pour votre santé, limiter les aliments gras, salés et sucrés. Ah. Et si Orange Open Profit, vous équipez de A à Z pour votre activité.
Ah bah moi sur Orange, avec Open Profit, moi j'ai la puissance de la fibre. Je travaille maintenant beaucoup plus rapidement.
Et bah moi chez Orange, avec Open Profit, j'ai en plus 2 minutes téléphoniques pour être toujours jeune et avoir de l'irré.
Ah bah parce que tu sais pas de choses en même temps, toi.
Avec Open Profit, on est physiquement fort de la fibre et de qualité.
Matraqué de publicité partout, tout le temps. Et ça, c'est pas ma conférence, c'est celle de quelqu'un d'autre sur la consommation. Donc, je dis simplement que je crois peut-être qu'on participe à créer des failles, comme ça, dans l'enfance, dans lesquelles, après, c'est facile de se glisser pour remplir nos trous intérieurs. Bien, mais dans cette société de consommation à outrance, comme on dit justement, il y a des parents qui disent, et je peux comprendre, des gens qui disent, bah, la frustration est partout. Donc, moi, je lui apprends la frustration. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Oui, il désire un jouet, une glace au magasin, bien sûr, et c'est sain de ne pas dire OK à tous ses désirs. Et je trouve ce qui est compliqué entre les mouchoirs et brosses à dents, c'est de faire la différence entre désir et besoin. Vous voyez ? Parce que des besoins humains, vous les connaissez ? On a tous les mêmes. Vous voulez inciter un peu ? Des besoins. Ah oui, alors il y a les besoins physiologiques, ok, manger, boire, dormir, bouger, ok, ça, et alors souvent, dormir, ça, on met bien tout ça sur le compte de, ah oh, mais oui, elle est fatiguée, mais non, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, mais voyons voir d'autres sortes de besoins, même si ceux-là sont hyper importants, évidemment c'est la base, voyons d'autres besoins,
besoin de justice,
d'affection, d'être sécurité affective, d'être protégée, sécurité matérielle, ouais, sécurité affective, l'amour, ça c'est le besoin fondamental. La reconnaissance.
D'être entouré.
D'être entouré, ouais.
D'être entendu.
D'être entendu, ouais. Écouter, respecté, ouais. Encouragé. D'avoir un
protégé.
Protégé, ouais. Autre chose. L'estime. L'estime de soi. Ouais, ça c'est une des bases, je le cite parce que hyper important, réalisation de soi, enfin, il y en a un paquet, il y en a beaucoup, et on a les mêmes, en fait, à des enfants, ils les ont tout pareil que nous. Et alors, souvent, donc, on ouais, c'est difficile d'y faire attention. Moi, dans le supermarché, avec ma lune, j'aurais pu avoir la lecture de, dans ce malentendu-là, elle veut la peluche. Sauf que ce jour-là, je l'ai prise dans les bras. Enfin, je lui ai proposé un câlin. Ce qui n'est pas toujours facile avec Madeleine, mais ce jour-là, elle a dit OK. Et quand, alors qu'elle était en train de s'apaiser, tranquillement dans mes bras, là, je me suis dit, waouh, en fait, la peluche, c'est pas le problème, quoi. C'était peut-être juste ce besoin d'être en contact avec moi. Je précise que cette journée-là, je n'avais pas été du tout disponible pour elle. Est-ce qu'elle aurait réagi de la même manière, avec la même intensité, si on avait passé la journée à jouer ensemble? Je ne le saurais jamais. Mais juste, voilà, j'ai essayé de décaler mon regard et c'était une bonne leçon ce jour-là. Donc, tous ces besoins-là, importants. Et puis la frustration, je reviens sur la frustration. Franchement, ils la connaissent les enfants, vous ne voyez pas? Il n'y a qu'à se mettre à leur place, je veux dire, entre 0 et... parfois, avec la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire? Moi, je crois que si on supportait autant de frustration que les enfants, on deviendrait juste dingue. Et la frustration, plus elle est vécue, plus elle est dure à vivre. Moi, j'ai l'impression que si j'échouais tout ce que je mettais en place, à un moment, ça n'irait pas du tout. Alors, on est aussi dans cette croyance, ce malentendu. Oh, t'en verras d'autres. Si tu perds pour ça, t'as pas fini. Ou parce qu'on se dit, faut bien les préparer à ce monde tellement dur. On se dit, ça les rendra plus forts. Ouais. Sauf que moi, je parle pas beaucoup de mon enfance dans cette conférence parce que je m'en souviens assez mal. Mais j'ai pas du tout l'impression que les difficultés que j'ai eu à traverser m'ont rendue plus forte. Au contraire, comme j'ai l'impression que ça m'a plutôt mis des coups dans l'aile. J'ai plutôt la sensation que ce qui me rend forte, moi, ce sont les moments où on me soutient, ou les moments où la vie est joyeuse, où elle vaut la peine d'être vécue, en fait. Ouais. Alors, en faisant ce petit regard un peu sur moi, et dans le quotidien avec Madeleine, quand on passe des moments joyeux, où tous ces besoins, non pas tous ces désirs, tous ces besoins, enfin, de jeu, de découverte, de contact, de rire, un tas de choses sont comblés, j'ai l'image d'un réservoir qui se remplit. Et j'ai envie de lui dire, voilà, garde ça, remplis-toi de ça, plutôt que les moments où je te crie dessus et où je perds patience, parce que ça te rendra plus forte, il me semble. Et pas facile. Ouais, alors,
je suis un peu perdue.
Non, je suis pas perdue. Ça va toujours. Je vous ai dit, je suis bavarde, c'est infernal. Le besoin d'expérimenter, quelqu'un a dit tout à l'heure, les enfants ils essayent tout, ils sont des chercheurs, même qu'ils utilisent la méthode scientifique. C'est simple, hein, c'est observation, théorie, prédiction, expérimentation. Alors Madeleine, de peu moins de 2 ans, sur le canapé avec une mandarine dans une main, une fourchette dans l'autre. C'est simple. Le jus coule partout. Que fait-elle? Où est le malentendu? Que fait-elle? On peut se dire, ah, elle est en train de faire une bêtise. Et alors en plus, non, Madeleine, n'enfonce pas la fourchette dans la mandarine. Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence en me regardant. C'est bien ça, maman, qu'il ne faut pas faire. Elle vérifie si c'est bien ça, si elle a bien compris. Là, on peut être dans un autre malentendu. Elle cherche. Ok. Oh là là. Ou alors elle teste mon amour inconditionnel. On y reviendra. Non, et alors en plus, moi, là, j'ai encore utilisé le truc qui marche pas là. Non, n'enfonce pas la fourchette dans la mandarine. Ça ne marche pas, ce truc. Ne pensez pas à une poule. Ne pensez pas à une poule. Je viens de le dire. Poule, poule, ok. Le cerveau ne sait pas traiter la négation. Et j'ajoute que les enfants petits n'ont pas la zone d'inhibition du geste. Alors ça donne fourchette, enfonce, mandarine. C'est clair, c'est une impulsion. D'où l'intérêt essayer d'apprendre, nous pauvres parents, adultes, enfin grands, enfin, je ne sais pas comment dire, à recréer des connexions neurologiques dans notre cerveau et apprendre à parler en positif. La fourchette et la mandarine, c'est au-dessus de la table avec un torchon. Ils sont où les torchons ? C'est pas de la manipulation. Bien, c'est amusant ce petit jeu. Et puis en plus, je trouve que c'est apprendre à dire tout ce qui est possible au lieu de dire tout ce qui est impossible. Et ça change la vie. Ça change la vision du monde aussi. Vous connaissez ATTAC ? Cette association ? Pour ceux qui la connaissent, est-ce que vous connaissez le slogan d'ATTAC ?
À l'attaque ?
À l'attaque ? Non. Alors, il va bien que ça vienne sortir le slogan d'attaque. J'ai entendu. C'est dingue ça. Alors, j'avais l'impression que c'était hyper connu. Bon, c'est quand même une blague que je garde.
Impossible, c'est impossible.
Un autre monde est possible. Et oui, ça permet de penser ce genre de choses. Et ils disent ça, souvent. Voilà, moi je vais le... Ok. C'est pas mal quand même ça. Plutôt de se dire non, c'est vraiment impossible de changer quoi que ce soit. Bien. Parler en positif, donner des cadres, des règles. C'est important aussi ça, les règles avec les enfants. Nous, on avait une règle à la maison. On avait dit le soir, quand on mange, non, pas que le soir, quand on mange, chacun sur sa chaise. J'en vois qui rigolent. Madeleine a 18 mois, le soir, évidemment. Maman, maman, les bras, maman, les genoux, etc. Et ce soir-là, moi, j'avais l'énergie de la prendre sur les genoux. Et là, j'ai compris un truc que je trouvais génial. Je me suis dit, mais les règles, en fait, elles doivent pouvoir changer. Ben oui, en fonction du contexte, des gens autour. Est-ce que c'est OK, pas OK ? Du bon sens, peut-être. Alors, je fais une parenthèse ici fondamentale. Si vous dormiez jusque-là, vous pouvez vous réveiller. Et après, vous rendormir. Pour moi, c'est fondamental parce que si je n'avais pas été en mesure, en énergie de la prendre sur les genoux, bien sûr, là, il fallait garder la règle. Et j'ajoute que j'aurais tout fait pour essayer de parler de manière personnelle. En quoi cette règle, elle est importante pour moi maintenant ? Pas les « il faut, on doit, on a dit que », le truc là, abstrait qui plane. Non. Pourquoi ? C'est important pour moi parce qu'a priori, ce qui touche les enfants, c'est bien plus notre authenticité que la règle froide. Je suis fatiguée ce soir, j'ai besoin de manger tranquillement. Une manière aussi de dire « où sont mes limites ?» Là, moi aussi je suis là en fait. Apprendre petit à petit à vivre ensemble, à dire « ouh ». Voilà, moi aussi j'existe. Je suis différente de toi, j'ai des besoins différents des tiens. Et prendre cette responsabilité que c'est mes besoins que je fais respecter, je ne la charge pas de tous mes malheurs, oh là là, tu me casses les pieds. Je veux dire, c'est ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, non, c'est mes besoins, c'est moi qui ai besoin d'être tranquille. J'espère que Jules appelle ça l'autorité personnelle. Et dans la vie en famille, il en parle vraiment très très bien. Et puis, bien sûr, quand on dit « non, j'ai besoin de manger tranquillement », n'importe quel enfant normalement constitué va réagir évidemment en pleurant, voilà, voire en trépignant, en se roulant par terre, que c'est vraiment trop injuste. Et là, on peut se dire « voilà, elle me teste. Qu'est-ce qu'il teste à ce moment-là ? Oui, il teste. Peut-être, je crois pas notre patience. Peut-être, toc toc, c'est qui ? Qui est là, en fait ? Qui me pose des limites ? Tu es qui, toi ? Tu fonctionnes comment ? Et peut-être aussi qu'il teste ce fameux amour inconditionnel. Est-ce que si je crie très fort maintenant, est-ce que même si je fais ça, on m'aime quand même ? Cet amour inconditionnel qu'on aurait tous, enfin qu'on souhaiterait tous légitimement de la part de nos parents, bien sûr. Ouais. Pour moi. Bon, bref, je referme la parenthèse. Vous vous rendez. Pour finir cette anecdote, je dis à Julien, mon compagnon, donc je dis Manon, c'est ok, ce soir elle peut venir sur mes genoux. Oh, non, non, on va pas changer la règle, il me dit elle va rien comprendre après. Mais mes enfants, ils ne savent pas que c'est différent chez papa, chez maman, chez mamie, chez nounou, chez, à l'école, à la crèche. Ils passent leur temps à s'adapter. Pourquoi ils ne s'adapteraient pas aussi à la situation? Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ils savent faire ça. On peut leur faire confiance. Et c'est une qualité du vivant de s'adapter. Toujours. Et puis on le sait, ça. Parce qu'on le dit. Il sait bien qu'il s'adresse pour obtenir ce qu'il veut. Toujours en leur prêtant les pires intentions du monde. Alors là, on peut se dire, franchement, ce sont des manipulateurs. Non, ils s'adaptent, en fait. Si on pouvait regarder avec brillance, avec, avec tendresse, cette brillance-là, peut-être ça nous ferait bien marrer, quoi. Ouais, de reconnaître leur grande faculté. Les règles, je m'y arrête aussi un peu. Après avoir demandé à Madeleine de laisser les torchons dans le placard, alors qu'elle a déjà la main dans le placard, si je ne suis pas OK pour ranger après avec elle, etc., bien sûr, je ferme le placard à clé, je lui propose autre chose, enfin tout ça. Mais si je dis, bon, tu laisses les torchons, je tourne le dos, une minute après, qu'est-ce qui se passe, bien sûr. A priori, les torchons sont par terre, etc., etc. Son élan de vie et sa curiosité naturelle, là, vous savez, lui disent qu'il y a quelque chose à faire avec ces torchons. Vous l'avez dit tout à l'heure, je crois. Parce que les connexions neurologiques, là, elles se construisent par la main, ça passe énormément par le toucher. C'est pour ça qu'il touche tout. Et c'est fatigant. Mais cet élan de vie, cette curiosité-là, voilà, ça se passe comme ça. Alors à ce moment-là, j'ai pas envie de lui tomber dessus, de lui dire « Ah, je t'avais dit, les torchons, etc. » Si je suis pas trop crevée, hein, ok, j'aime bien laisser cette liberté d'agir pour suivre cet élan-là. Parce que quand il y a le non-respect des règles comme ça, à la maison, il y a la petite voix de la peur qui dit « Mais si elle ne respecte pas les règles à la maison, comment elle va faire pour respecter les règles de la société? Vous connaissez ça? C'est préoccupant. Alors, les règles de la société, il y en a beaucoup pour vivre ensemble, les lois. Prenons par exemple le délit de solidarité. Donc, dans le texte, c'était 5 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, interdiction d'aider à la circulation des personnes en situation irrégulière. Ok, c'était rarement appliqué, mais c'était écrit dans la loi. Elle est caduque désormais, cette loi. Voilà, elle n'existe plus. Et j'ai beaucoup de gratitude pour les centaines de personnes qui n'ont pas souhaité respecter aveuglément cette loi pour bien vivre ensemble, mais peut-être suivre leur élan d'humanité qui leur dictait autre chose. Je raconte tout ça, évidemment, parce que dans ce petit quotidien-là, j'aime bien cultiver ce potentiel désobéissant de Madeleine, pour le cas où elle croiserait une règle qui ne correspond pas à ses valeurs ou à ses élans. Parce qu'on la voit d'un très mauvais œil, cette désobéissance des enfants. Elle nous met mal à l'aise. Pourtant, elle est signe de bonne santé pour construire son intégrité, pour faire respecter ses valeurs, ses besoins aussi. Se respecter, c'est pourtant fondamental. Alors, je vous propose un petit temps à ce sujet, où on va changer un peu de ton, de mode, si vous le voulez bien. Je vous propose de vous retourner vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez, et de prendre quelques minutes pour partager avec cette personne quelque chose, un moment où vous avez dû peut-être obéir et vous n'avez pas senti que ça correspondait à vos valeurs ou à vos besoins, ou peut-être vous avez été témoin de quelque chose comme ça, ou peut-être c'est quelque chose qui s'est passé avec vos enfants au sujet de la désobéissance de vos enfants, ou un souvenir de votre enfance où vous avez désobéi, par exemple. Quelque chose à ce sujet-là. Ça vous va? Mm-hmm. Ouais. Ben, voilà, je vous laisse quelques minutes pour vous. Thank you. Et en plus, moi, ça me
frustre.
Et en plus, je vous demande d'obéir, c'est terrible, mais ces conversations-là, elles pourraient faire l'objet d'un atelier, parce qu'un autre indice sur les conférences gesticulées, après les conférences, on essaie de mener des ateliers pour aller plus loin dans le sujet, passer à l'action, se donner envie, puis réfléchir collectivement au sujet qu'on a traité. Et ça pourrait être l'objet d'un atelier, cette histoire d'obéissance qu'on exige des enfants. Et pour clore un petit peu ce chapitre, je vais dire une phrase de Dalibor Milovanovic. N'essayez pas de retenir le mot. Elle a écrit un très bel article sur l'obéissance qu'on exige des enfants. Et elle a un site d'ailleurs, il y a des papiers à la fin, vous pouvez prendre. Je vous donne le lien de son site parce qu'il est vraiment très très beau. Elle dit à un moment, on ne peut pas à la fois souhaiter l'obéissance des enfants et la liberté de l'adulte comme s'il n'y avait aucune continuité de l'un à l'autre. C'est assez bien résumé, je trouve. Et cette question d'obéissance, elle soulève très rapidement l'histoire de la punition. La punition a-t-elle des vertus éducatives? C'est quand même ça la question. Alors pour en parler, j'ai amené des petits livres, encore. Quoi de mieux que quelques petits livres pour enfants pour parler de tellement de sujets? Émilie n'a pas sommeil. Je vais vous lire celui-ci si vous voulez bien. Elle n'a pas sommeil, hein, c'est noté. Émilie n'a pas sommeil. Elle a même très envie de jouer. On est bien mieux à faire des cabrioles que dans son lit. Émilie, pour la deuxième fois, va te coucher. Vous remarquez le caractère un peu comme... Mais papa, je range mes jeux. Peut-être que papa va m'oublier et que je n'irai pas dormir. Émilie, si je me lève, tu seras punie. Émilie monte dans sa chambre sans se presser. Elle ne trouve plus sa chemise de nuit. Tant mieux, puisque je n'ai pas sommeil, dit Émilie. Et puis d'abord, j'ai soif. Émilie va boire dans la salle de bain. Mais je n'ai pas dit bonsoir à Stéphane. Tiens, tu es déjà couché? Si on jouait? Va-t'en, j'ai envie de dormir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mais papa et maman disent, nous montons vous embrasser. Émilie a très peur. Que fait-elle? Eh bien, elle saute tout habillée dans son lit et fait semblant de dormir. Ben oui, voilà. La punition enseigne très bien la dissimulation. Alors, je vais rajouter un mot à mon tableau noir. Oh, comme ils ont dû en recevoir des... punition, les... Alors, on fait une petite liste ensemble?
Politiques.
Les politiques. Voilà, on précise un peu. Non. Des noms, on veut des noms. Bolloré.
La Chirac.
Chirac, Cahuzac, Ferrand, Sarkozy. Les... On parle que de la France, là, parce qu'il y a... Bon, voilà, ils sont trop nombreux. Madame Gershoff, c'est une docteure au Texas, je crois. Elle a fait une méta-analyse. Elle a pris le résultat de plein d'analyses. Et sur 160 000 cas, quand même, elle conclut simplement que la punition n'a aucune vertu éducative. Elle a d'autres pouvoirs, comme par exemple augmentation de l'agressivité, la nervosité. Ouais, diminution des actes altruistes aussi. Voilà. Forte, forte corrélation. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais que dit un enfant quand on lui demande pourquoi est-ce que tu reçois des punitions? Vous avez déjà fait ça? Qu'est-ce qu'il répond? Je ne sais pas. Parce que je fais des bêtises? Parce que je suis pas sage?
Ben oui. C'est pas moi.
Ou c'était pas moi? C'est un juge. Mais souvent, c'est toujours sa faute. Parce que je suis pas sage, parce que j'ai été méchant. C'est toujours sa faute. Ben oui, comment ça pourrait être autrement? Je veux dire, on les aime. Ils nous aiment. C'est pour ton bien, mon chéri. C'est Jesper Joule qui dit très bien, je ne sais plus dans lequel, un enfant Blessé dans son intégrité, ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Il nous porte un amour tellement grand qu'il préfère remettre en question leur amour propre. C'est peut-être ça qui nous fait le plus mal quand on les blesse, quand on n'arrive pas à garder son calme, par exemple. Et puis cet amalgame, je te punis, je te frappe, c'est pour ton bien. Dans l'amalgame, dans la construction des relations chez un tout petit enfant, qui d'autre en dehors des enfants est en mesure d'accepter un coup de quelqu'un qui l'aime? Ouais, ça pose question.
Oui, parce que en France, donc.
Ah oui, non, il y a quelque chose que je voulais dire.
Il y a un sociologue du travail qui explique, j'ai rencontré en faisant la création sur les souffrances au travail, Christophe Dejour, il dit, c'est dingue ce qui hante les salariés avant leur burn-out, des jours, des mois, des années avant leur burn-out, c'est la question, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Ils cherchent toujours à l'intérieur d'eux-mêmes, incapables dans un premier temps de remettre en question une oppression extérieure, structurelle ou individuelle, ou un chef, ou une organisation.
Donc, je voudrais vous faire partager à nouveau 3 minutes de bonheur, mais pas les mêmes. Cette fois-ci, on va faire en sorte que ça marche du premier coup. C'était sur RMC, la fessée pour ou contre. Vous voyez, donc on entend des gens s'exprimer à ce sujet, des anonymes. C'est parti. Là, c'est un monsieur.
Moi, j'ai pris des fessées, j'en suis très bien porté, j'en ai donné à des enfants qui ont fait prier en études et qui vont très bien.
Donc, moi, j'ai pris des fessées, j'en suis très bien porté. Vous connaissez l'autre version de cette phrase?
J'en ai reçu.
Je ne suis pas mort.
Je ne suis pas mort.
Je me dis, là, l'échelle d'observation, en fait, c'est la mort. Ce qui se passe avant, a priori, ce n'est pas trop grave. Et puis, ces enfants ont fait de brillantes études, donc tout va bien.
Et ça a déjà évoqué très bien la différence entre le fessé et la maltraitance, ça n'a rien à voir. Mais au-delà de ça, moi je ne suis même pas d'accord avec les gens qui trouvent que cet angélisme vis-à-vis des enfants, exprimer une autorité de bonheur, à un moment avec un enfant, on arrête de discuter. Vous dites, on explique, mais pas deux fois, pas trois fois. Donc à un moment, il y a autorité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit des générations de gosses qui sont mal élevés, on les voit dans la rue, qui ne respectent pas leurs parents, qui ne respectent pas les autres, parce qu'ils sont intouchables. On a une génération de jeunes après qui ne respectent pas la police, qui ne respectent plus rien.
Ils ne respectent même pas la police. Qui aurait dit les jeunes d'aujourd'hui bavardent, ne respectent pas leurs aînés, bavardent au lieu de travailler? Ce serait Socrate, a priori. Enfin, en tout cas, c'est assez vieux. Quoi. Donc, je crois qu'on peut se détendre avec ce truc de les jeunes d'aujourd'hui, la vieille rengaine, là.
Donc, au-delà du débat sur la fessée, moi, j'accuse et je mets en cause toute cette génération bobo qui ne sait pas éduquer les enfants, qui veulent rien faire avec eux, qui veulent discuter, qui veulent préserver l'âme, enfin, tout ce genre de bêtises, je les accuse de dénaturer notre société.
Ça fait mieux
à l'âme que simplement mettre une âme au bon moment, avec une notion de justice, de faire un bon escient. Et là, au moins, ça clôt la discussion, ça permet d'avancer et ça décrisse un petit peu l'ambiance.
S'il parle de ça, effectivement, ça marche très très bien. Ouais. Ben oui, il y a tous ces débats, parce qu'il n'y a pas de loi en France aujourd'hui hein, qui interdit explicitement toutes les formes de violence physique ou psychologique envers les enfants. Il y a toujours ce droit de correction hein, qui existe. Parce qu'il y a cette croyance aussi qui dit que, a priori, un enfant aurait besoin d'être corrigé pour pousser droit. Oui. Quand j'ai discuté un jour de ça avec mon voisin, il me dit « Oh, ils ne vont pas nous emmerder avec... Une loi pour nous dire comment il faut élever nos gosses, puis une loi ça sert à rien, moi j'élève mes gosses comme je veux. » Déjà j'ai plutôt tendance à penser qu'on élève ses enfants comme on peut, déjà, nuance. Et puis, non, en fait, les droits de l'homme ne s'arrêtent pas aux portes de la maison. Il y a encore quelques dizaines d'années, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui pouvaient penser et dire publiquement « Je frappe ma femme si je veux. » Aujourd'hui, il y en a qui continuent à le penser, mais le disent moins publiquement. Ça avance un peu. Donc une loi, ça peut servir à soutenir un petit peu cette prise de conscience, accompagner tout ça. Même si une loi sans accompagnement des adultes à côté, ça ne va pas tout changer, hein, bien sûr. Alice Miller, c'est une femme qui a écrit beaucoup au sujet des violences éducatives ordinaires. Elle s'est penchée sur l'enfance de beaucoup de dictateurs et elle constate simplement que tous avaient eu une enfance ravagée par la violence. Alors là, on parle de violence très haut niveau, bien sûr. Mais quand même, dans C'est pour ton bien, notre ouvrage, elle raconte comment dans l'Allemagne des années 30, avec une population pourtant bien éduquée, avec une bonne morale, tu ne feras pas de mal à plus petit que toi, tu ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Comment tout ça n'a pas empêché cette population d'élire une personne comme Hitler, par exemple, pour son programme. Ce que je veux dire par là, c'est simplement qu'une éducation autoritaire, c'est un boulevard pour une société autoritaire. Alors, ça paraît évident comme ça, mais j'entends par là aussi... ça paraît évident, mais au quotidien, c'est quand même difficile de s'extraire de cette posture, de cette domination adulte très très ancré, hein. Et c'est pas une remise en question individuelle, forcément c'est structurel, ça fait 8000 ans hein, au moins plus de 8000 ans qu'on se traîne ce truc là cette domination adulte qui donne lieu à cette autorité ordinaire, hein, et qui donne lieu à cette soumission ordinaire dans des sociétés où l'autoritarisme est plus discret, plus sournois, plus invisible, et où la soumission est tout aussi discrète, banale, acceptée. Voilà, invisible. Bon, même si on ne fait pas de suppositions de ce genre, psychologico, je ne sais pas quoi, on peut regarder simplement la physiologie, qu'est-ce qui se passe. La simple menace d'une punition, le simple fait d'être surveillé, que quelqu'un essaie de contrôler notre comportement, qu'est-ce que ça crée chez vous ? Comment ? Un mal-être, du stress, des angoisses. Ça crée forcément tout ça. Et du stress. L'hormone du stress, on la connaît maintenant un peu mieux, c'est le cortisol. C'est super le cortisol parce que c'est ce qui nous permet de rester en vie. Hein. En voiture, un danger, un coup de volant, c'est bon. Ouais, ça agit extrêmement vite, ça se diffuse partout, dans tout le corps et très vite. Et il y a un tas de choses qui se passent. L'oxygène fonce dans les muscles pour qu'on soit plus puissant, les pupilles se dilatent, enfin bref, c'est très puissant. En situation de danger, nous les mammifères, on n'a pas 50 000 possibilités. Maintenant on sait, hein, soit on attaque, soit on fuit, soit on reste figé, on fait le mort. Un enfant, Madeleine sur son canapé par exemple, si je l'opte pour les cris... Ah, tu vas dans ta chambre réfléchir à ta bêtise, c'est pas toi. Attaquer, c'est compliqué, quand même. Fuir, bah non, c'est compliqué aussi, parce que les êtres humains ont des liens d'attachement très forts. Et c'est très difficile de fuir devant la personne qu'on aime très fort. Rester figé, donc ça c'est possible. Sauf que ça pose quelques soucis, parce que déjà, quand on reste figé, déjà... On déconnecte, on coupe beaucoup ce qui se vit là à l'intérieur parce que c'est extrêmement rude pour le cerveau. Ensuite, rester figé, c'est compliqué parce que ça ne donne pas de solution. On ne donne pas de solution au corps. Il y a les glandes surrénales là, qui prennent le relais et qui disent « Oh, ça va pas », qui envoient du cortisol un peu partout et qui disent « Bon, il faut faire quelque chose ». Mais il n'y a rien qui se passe. Sauf si ce qui se passe, c'est le cortisol qui arrive dans l'amygdale, l'amygdale qui envoie, et tant qu'on reste figé et qu'on ne donne pas de solution, bah c'est simple, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça envahit littéralement le cerveau, le corps, généralement. Si cette hormone est précieuse, on s'est rendu compte qu'elle était toxique. On le sait, hein, par bon sens, après une journée stressante, on ne va pas être dans le même état émotionnel, voilà, qu'après une journée super cool. Les enfants, c'est pareil. Plus ils s'en prennent dans la journée du stress, plus ils arrivent comme des piles. Quoi, c'est toxique aussi, ça joue énormément sur les fonctions d'apprentissage, parce que ça, l'hippocampe est très vulnérable au cortisol, et l'hippocampe, c'est le lieu de la mémoire. Donc ça complique les choses. C'est extrêmement tenace, le cortisol aussi, sur les organes. Et à long terme, ça a des effets très, très, très forts. C'est Muriel Salmona qui en parle de long, en large et en travers dans son bouquin, sur tous les effets à court, moyen et long terme. Il y a plein d'études qui racontent que 50 ans après une enfance sous stress, la santé des individus est beaucoup plus vulnérable que celle des individus ayant une enfance sans trop de stress, même s'il y en a toujours. Donc, waouh, c'est une question de santé publique aussi, c'est cette histoire-là, de châtiment corporel, de stress pendant l'enfance. Mais même à court terme, hein, le cerveau, en situation de danger, il va débrancher tout ce qui n'est pas vital, dont le système immunitaire. Donc, quand on débranche comme ça très souvent un système qui est aussi bien fichu que celui qui nous maintient en bonne santé, c'est pas sans conséquences, vraiment, à court, moyen et long terme. Et je finirai là-dessus avec le cortisol. On s'est rendu compte aussi qu'il vient altérer, voire détruire des connexions neurologiques, et particulièrement où ? Dans le COF. Je rappelle les lieux de l'empathie, relation à l'autre, prise de décision, sens éthique, régulation des émotions. Alors là, on empire vraiment les choses. Il y a une vraie réduction de la matière grise à ce niveau-là. Et alors, si le cerveau est extrêmement puissant, tout petit, il est aussi extrêmement vulnérable, en fait. Il est très malléable, très plastique, il est très vulnérable. Les connexions vont venir se détruire vite et beaucoup. Alors, voilà, c'est pas facile, hein, ces informations à recevoir. Bien sûr, il y a des gens qui ont vécu des enfances sous stress et qui, d'une part, ne reproduisent pas forcément la violence. Qui ont un sens de l'empathie et un sens éthique développé, évidemment. On croise sur son chemin des gens, des choses. Alice Miller parle de témoins secourables, de témoins lucides, des gens qui nous permettent de prendre un peu de recul, voilà, et de reconstruire toutes ces zones du cerveau et de prendre du recul comme quoi ce n'est pas normal ce qui a été vécu. Ça, c'est une longue histoire, heureusement ça existe. Par contre, on peut traîner des casseroles émotionnelles, on va dire, assez fortes, et on observe évidemment une corrélation très très forte entre enfance sous stress et addiction, dépression, et pour les pires des cas, suicide. Voilà. Et je fais un parallèle à ce moment-là entre toute cette destruction de connexions neurologiques, pourtant tellement nombreuses, et cette destruction de la biodiversité, pourtant qui est, ou qui était, je ne sais pas comment dire, si foisonnante. En fait, le cortisol, donc, c'est pas bon pour l'organisme humain. Ça dérègle, c'est un peu comme la croissance pour la planète. Ça, maintenant, c'est très clair, ça dérègle tout. Et bon, c'est comme plein de choses, hein, qui ne sont pas bonnes pour la santé. C'est comme le tabac, par exemple, c'est pas bon pour la santé. Ça c'est clair, il y a d'autres choses, et quoi, les pesticides, c'est pas bon pour la santé, on peut y penser, quoi, le CO2, c'est pas bon pour la santé, le sucre, c'est pas bon pour la santé, il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, comment L'alcool, c'est pas bon pour la santé, tout ça. C'est pas bon pour notre santé, d'accord? C'est très très bon pour la santé des industriels. Ah, pour eux, tout va bien. Hein? L'usine à chagrin tourne jour et nuit. L'usine à chagrin fait de gros profits. L'usine à chagrin marche tant et plus. L'usine à chagrin tourne à flux tendu. Mais dans la fabrique à Célestin, où l'on fait ces petits riens qui font que la vie pétille, qui font que la vie frétille, un sourire au fond d'un verre de vin dans le regard d'un copain, le bleu de l'amour qui brille et le fou rire des petites filles, rien, rien n'est à vendre chez Célestin. L'usine à chagrin a des succursales avec salle de bain où va l'argent sale. L'usine à chagrin a des actionnaires qui attendent les tels vaincus sur la misère. Mais dans la fabrique à Célestin, l'on fait ces petits riens qui font que la vie s'affole, qui font que la vie décolle. Une vieille au fond du jardin qui demande le chemin qui mène à son école. Et un ami qui tient parole, rien, rien n'est à vendre chez Célestin.
Voilà, c'est un petit clin d'œil sur l'argent. Qui est une drogue aussi, l'argent, peut-être. Ah, je vous parle deux minutes du jour où j'ai eu envie, j'ai décidé de faire quelque chose au sujet de toutes ces violences ordinaires. On était entre adultes, il y avait un enfant de 5 ans. Et puis vous savez, entre adultes, bon bah blablabla, blablabla. Puis l'enfant, il n'a qu'à bien jouer dans son coin. Sauf que cet enfant, il s'ennuyait, quoi, au bout d'un moment. Et donc, ça n'allait pas bien pour lui, et il le disait, il tournicotait, tout ça. Au bout d'un moment, sa maman lui dit « Oh, mais qu'est-ce que tu as ? Tournicoter, là, t'embêtes tout le monde, qu'est-ce que t'as ?» Et donc, il l'a regardé, en train de lui parler. « Et tu baisses les yeux quand je te parle ?» Et évidemment, j'ai vu ce petit baisser les yeux. Et j'ai pas vu que ça. Ouais. J'ai vu plein de choses. Des femmes battues qui ferment les yeux, qui baissent les yeux. Des quoi ? Des salariés qui ferment leur gueule. Des quoi ? Des journalistes qui ferment leur gueule. Des enseignants qui n'en peuvent plus de ce qu'on leur demande. Et qui encaissent. Des quoi d'autre ? Je sais pas, des paysans qui ferment leur gueule. Des consommateurs aussi, des citoyens en fait, on va dire, qui ferment leur gueule. Qui se font tuer, qui consomment des trucs qui les rendent malades. On est bien sage, hein, je trouve, dans l'ensemble, je veux dire. Des fois, on essaie de... Mais c'est pas facile, et on n'a pas appris. Ouais. J'ai fait une acquisition en préparant cette conférence. Ouais, alors, j'étais toute contente, parce que je me suis dit, voilà, je vais vraiment trouver des tas de choses à leur lire, avec des tas d'adultes qui bien aux enfants, comment il faut être et tout. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'adultes, hein, dans les Martines, ou très très peu. Mais oui, c'est pas utile. Parce que Martine, elle est tellement parfaite. Elle est tellement sage. Alors bon, je vais pas forcément prendre le temps de vous dire, mais vous pouvez les feuilleter après. Ça n'a pas de problème. On va en acheter, ça coûte pas cher sur le coin. J'ai juste ouvert un dictionnaire parce que ce mot-là, sage, dont on parle tout le temps au sujet des enfants, qu'on utilise tout le temps, ça a été bien sage, tout ça. J'ai quand même regardé dans un dictionnaire et j'ai trouvé. Est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu souvent conforme à une éthique qui allie conscience de soi, des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuyant sur un savoir raisonné. Ça m'a pas exactement fait penser aux enfants, même s'ils ont tout à fait des raisonnements exceptionnels. Donc, ouais. Puis il y avait les synonymes aussi. Docile, obéissant, calme, gentil. Donc, on peut aussi faire attention à notre vocabulaire, parce que pendant ce temps-là... Ça se construit et puis qu'est-ce qu'on est sage.
Surtout les filles. Avec notre joli sourire. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, aïe, aïe, j'ai pas 46 000 solutions là, en fait, hein, pour éduquer mon futur enfant. J'ai quoi ? J'ai l'autorité ou le laxisme. Hein. Ce qui est important, c'est un peu le curseur entre les deux, tout ça. J'en étais là, à peu près. Alors, bon, l'autorité, on en a parlé, j'ai parlé d'autorité personnelle, celle-ci qui me semble précieuse à avoir, dans n'importe quelle relation d'ailleurs. Ok, et on dit faire autorité. Vous savez, c'est quoi ? C'est avoir acquis assez de respect pour faire autorité. Quelque chose comme ça. Il y a un lien entre cette histoire de respect, d'autorité. À ne pas confondre hein, entre être respecté et être craint. Hein. Voilà, c'est pas pareil. Bon, alors, cette histoire de respect, moi, ça m'amène à dire une chose. Parfois, c'est Madeleine qui fait autorité sur moi. Oh là là, elle va se faire bouffer, celle-là, elle est folle. Non, j'explique juste que, par exemple, on est dans la salle de bain, elle est dans son bain, et elle ne veut pas se savonner. Je lui demande, est-ce que je peux te savonner ? Elle me dit non. Ok. Je respecte son corps. Ok. Je parle là du non-respect du corps de l'enfant, hein, qui est touché, lavé, tripoté, embrassé, câliné, sans son consentement. Fais un bisou à mamie. Et de toutes les violences sexuelles hein, qui ont lieu, les attouchements, sans consentement. Le sujet est hyper compliqué, mais je dis juste qu'à ce moment-là, dans la salle de bain, pour moi, mon rôle, c'est pas de la savonner. Je veux dire, qu'est-ce que je m'en fiche ? J'y arriverai bien peut-être demain, ou avec un petit jeu, ou je sais pas quoi. C'est lui apprendre par la main, lui apprendre à faire respecter son corps par un nom clair. Voilà. Parce qu'il n'est pas normal d'être touché, lavé, tricoté. C'est pas normal pour nous, c'est pas normal pour eux. Ouais, on est pareil là-dessus. Bon, le laxisme, ça fait partie des violences éducatives ordinaires, évidemment. C'est, je sais pas, c'est plein de choses, mais je vais pas m'attarder. La croyance un peu qu'on peut pas dire non. Ouais. Ou qu'il faut éviter les conflits. Ouais, c'est dommage, parce que ce qu'on en fait, c'est quand même ça qui est intéressant avec les enfants. Même si c'est pas facile. Alors, il y a maintenant, on a compris un peu, qu'on peut faire autrement. Au lieu de faire à l'enfant, on peut faire
avec.
Et il n'a pas d'enfant, hein, ce monsieur. Non, faire avec eux parce que les enfants coopèrent. Oui, ouais. Ouais. C'est une qualité du vivant, ça aussi, contre toute attente. Qu'est-ce qu'on gagne à proposer aux enfants de faire avec, de coopérer ?
Facile.
Comment ?
Après, ça devient facile.
Ça devient facile, il y a des moments où ouais, on gagne du temps. Ça devient plus simple parfois, ouais. Comment ?
On a une autonomie là.
Ah ouais, l'autonomie. Ouais, mais c'est vrai, proposer comment on coopère, comment tout seul trouve les solutions, si on leur suggère de trouver des petites solutions un peu partout. Et comment après, ils arrivent à construire cette façon de coopérer devant un problème, de trouver une solution tout seul. Ouais.
On devient une équipe.
Ouais, on fait équipe. Du coup, on fait équipe, ensemble. Hein. On est sur ce même niveau, quoi. Il y a cette considération, du coup. Dire oui, t'es capable, en fait, on peut faire équipe ensemble. Waouh, j'ai la place, hein, j'ai la considération. Moi aussi, je fais partie du jeu. Ouais. Quoi d'autre ?
Confiance.
Ouais. Ça donne la confiance, ouais. Et ça donne la confiance en eux. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils font confiance, je sais plus. Non, mais... Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, c'est tout ça, hein, c'est la base, quoi. Voilà, proposer de coopérer, déjà, ça apprend tout ça. Et ça évite de faire comme avec les contractions ou quoi, là, en frontal. Donc des fois, c'est plus simple. Et puis, ça leur donne cette espèce de... ce pouvoir personnel. Et c'est pas le pouvoir, je dis pas qu'ils cherchent le pouvoir absolu, du pouvoir personnel sur leur vie en fait. Mais on le cherche tous celui-là, à décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et donc ça leur donne cette possibilité-là, le plus souvent, voilà, Ça s'apprend. Ils n'ont pas de pouvoir, les enfants. Ils n'ont pas de propriété non plus. Ils n'ont pas de salaire en même temps. Pourtant, ils bossent. Hein. Alors, ils n'ont pas de propriété, non, parce que même chez eux, avec leurs propres jouets, quand les copains rappliquent, prête. Ouais. Qui a envie que son enfant prête? Les autres, vous êtes juste des menteurs. Qui a envie que son enfant prête quand on lui demande? Qui a envie que son enfant prête avec cœur?
C'est la petite différence.
Ouais. Alors, cette phrase, on peut se la poser pour tout. Hein. Qui a envie que son enfant s'excuse? Qui a envie que son enfant s'excuse avec cœur? Qui a envie que son enfant mange? Qui a envie que son enfant mange avec cœur? Qui a envie que son enfant... Voilà. Bref, avec cœur. Mais comment on fait pour ça? Pour susciter ce truc-là?
Il faut que ça soit le cas pour vous, déjà.
Ah, par exemple, là, traiter le téléphone, par exemple. Comment? Mimétisme, ouais, déjà donné l'exemple, c'est déjà pas mal. C'est déjà quand même une base. Et puis quoi d'autre?
En posant des limites auprès du moment où il a le droit de ne pas traiter.
Ah, décider des moments où il a le droit de.
Que lui soit d'accord, qu'il dise avant que les copains arrivent, de dire est-ce que quel jouet tu
veux. À quel jouet, ouais.
Enfin, qu'est-ce que tu es prêt à mettre dans le pot commun, qu'est-ce que tu veux garder?
Ouais, décider avant. Ouais. Qu'est-ce que tu es OK pour prêter? Oh, pouvoir personnel. Ouais, je peux prêter ça. Ça marche pas forcément. Hein. Ouais, jusqu'à il y a 3 mois, Madeleine ne prêtait rien. Moi qui veux l'équité, le partage, tout ça, ça m'a mis dans des situations d'une violence terrible en fait. Vraiment. Et ça s'ouvre là, tout doucement. Et là, enfin, je me dis, ah, c'est pas que de la théorie. Ça commence. Et même à trouver des solutions, celle-ci, dire vous êtes deux à vouloir jouer avec ce truc-là, comment vous pourriez faire? Ça, je lui ai posé je ne sais pas combien de fois cette question. Et il n'y a pas très longtemps, ils étaient deux sur un sac avec 2 anses. J'ai proposé ça, j'ai demandé quelle solution. Elle me dit, j'ai une idée! Toi, tu prends cette anse et moi, je prends celle-ci. Ils sont partis comme ça avec leur sac, elle était toute contente d'avoir trouvé sa solution pour partager ce jeu-là. Et ils sont hyper brillants pour ça, les enfants, quand on les sollicite régulièrement, le plus tôt possible. Hein, je n'ai pas que vu chez ma fille. Voilà, et ils trouvent des petites solutions. Il y a aussi accepter que ça prend du temps, en fait, tout ça. Moi, j'ai l'impression à s'attacher à cette confiance que ça va se faire. Et parfois, c'est long. Mais cette histoire aussi de... tu as vu dans quel état ça le met, enfin, tu lui as arraché le camion jaune des mains, tu vois comme il est triste. Comment faire pour soutenir cette empathie qui est déjà présente, pour juste leur ouvrir le regard sur ce qui se passe autour d'eux, au lieu de faire des injonctions sur qui donnent beaucoup de crispation, je trouve, autour de la propriété, mais comment ouvrir le regard sur ce qui se passe autour d'eux? Qu'est-ce que ça fait à l'autre de ne pas avoir ce que j'ai moi, de manière à ce qu'ils deviennent experts dans ce domaine-là? Ça me paraît précieux. Monsieur, je m'en fous. Laisse couler ses robinets, parce que ça fait un joli bruit qui fait chanter ses canaris. Monsieur, je m'en fous. Lave ses chiens, lave ses voitures, et s'en va briquer son bateau pour partir à Acapulco. L'eau de la mer et l'eau du puits, tout est à lui, tout est à lui. L'eau de la mer et l'eau du puits, tout est à lui. Il a de l'or bleu dans sa banque, et tant pis si les autres en manquent. Ça ne fait rien du tout, monsieur, je m'en fous. Aime regarder à la télé des émissions sur la famine avant de plonger dans sa piscine. Monsieur, je m'en fous. Aura un jour des petits-enfants la langue sèche comme un chameau qui se battront pour un verre d'eau. L'eau de la mer et l'eau du puits, rien n'est à lui, rien n'est à lui. L'eau de la mer et l'eau du puits, rien n'est à lui. L'or bleu ne coule pas dans les banques. L'eau est à celui qui en manque. Ça ne fait rien du tout. Monsieur, je m'en fous. Parce que nous, les adultes bien pensants, on vit dans un monde où on partage les richesses, je veux dire. rajouter deux mots dans le tableau. Ça serait bien de faire quelque chose. Ça va toujours ? Je vais vous demander, à votre avis, quelle autre forme de contrôle on peut avoir sur les enfants, nous, les adultes experts en manipulation.
Chantage.
Chantage, oui. C'est marqué en plus. Ah. Mais là, j'attends une bonne réponse, en fait.
La peur.
Comment ?
La peur.
La peur. C'est une réponse intéressante, mais ce n'est pas la bonne réponse.
Mensonge.
Mentir, ce n'est pas la bonne réponse. Allez, je vous aide un peu, voyons, enfin, faites un effort. On a parlé des punitions.
Récompense.
Ah, qui a dit en premier ? Qui est le premier ? C'est vous ? Bravo ! Bravo, merci ! Bravo, comment vous vous appelez ? Comment vous vous appelez ?
Jenny.
Jenny, je vous mets un bon point, Jenny. Ben voilà, ma chérie. Je préfère ça que quand tu fais ta tête de cochon, hein. C'est ça. Ouais, pas facile hein, de les aimer sans condition. On finit l'histoire ? Ça vous dit ?
Ah
oui, on a fini. Elle est en train de finir. De faire semblant, pardon, de devant. Oh, grande papa et maman, nous ne disons pas bonsoir aux petites filles qui ne sont pas déshabillées. Émilie pleure. Elle enfile vite sa chemise de nuit. Elle entend papa et maman qui reviennent l'embrasser. Émilie est contente. Je t'aime, mais je te donne la preuve si... Il y a deux sortes de motivations pour faire les choses. Vous savez, il y a la motivation intrinsèque. C'est facile, hein, c'est moi mes bouquins, c'est celle qui nous appartient. C'est des choses qu'on a vraiment envie de faire. Et quand on réussit quelque chose qui nous tient vraiment à cœur... on a dans le coffre là toujours une décharge de dopamine. C'est la lampe du plaisir. Ouais. On la cherche cette hormone. C'est la même qui est diffusée quand on consomme des drogues dures comme l'alcool, le tabac, le sucre, etc. Donc on cherche ça. Et puis il y a la motivation extrinsèque. C'est facile. C'est celle qu'on a pour faire les choses, pour éviter une punition ou obtenir une récompense. C'est Émilie et sa chemise de nuit pour avoir son bisou. C'est simple. Et Alfie Kohn, qui a écrit « Aimer nos enfants inconditionnellement », vaste programme quand même, on challenge, il raconte que ces deux motivations fonctionnent comme deux vases communicants. Plus on nourrit la motivation extrinsèque, plus la motivation intrinsèque s'effondre, lamentablement. Plus de récompense. Plus de félicitations. Ah ben, on peut plus rien dire alors, me dit mon père. Ah ben comment on leur dit que c'est bien ? Mais on leur dit pas en fait. Ils s'en foutent. Enfin, tant qu'on leur bourre pas le mot avec ça. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'émerveiller avec eux ? Ben ouais, ils font des tas de choses incroyables. Nommer ce qu'ils font. Considérer, il la cherche cette considération. Regarde, c'est le mot que j'entends le plus en ce moment. Regarde, oui, être regardé, nommé, décrire. Oh, t'as fait une tour toute seule, ok. Ah, t'as fait un dessin bleu, jaune, avec des points, ok. On raconte, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Prendre le temps plutôt que ce jugement de valeur. Ah, c'est bien, elle pète la tour. Et puis en plus, deux minutes après, il la casse en le regardant comme ça. Nommer et peut-être faire remarquer, ça a l'air de te faire plaisir cette tour, pour peut-être les accompagner à découvrir eux-mêmes ce qui vraiment les réjouit dans la vie, en fait. Là où ils ont envie d'aller, leur motivation intrinsèque est forte, pour surtout qu'ils s'attachent à ça, qu'ils suivent ce truc-là, et après, on peut leur faire confiance que. Ils deviendront talentueux. Hein, c'est Brel, je crois, qui disait le talent, c'est l'envie. Ouais. Comment nourrir cette chose-là ? Mon compagnon, Julien, il fait du trail. vous savez, mais pas du trail. Le trail dont vous en faites aussi par ici, c'est courir dans la montagne pendant des heures. Donc il ne fait pas des trails de 10-20 km, non, il fait 160 km, 10 000 mètres de dénivelé. Il y va, quoi, il s'entraîne. Et sa culture, chez lui, c'est que depuis tout petit, il regarde les compètes à la téloche. Mais pas juste le foot, hein. Non, non, toutes les compètes. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein. C'est tous les jours, il y a quelque chose à voir. Bon, il n'est pas à pinquer devant la télé tous les jours, mais bon, bref. C'est sa culture. Et un jour, sa maman, avec qui on était en train de manger, nous dit que quand les garçons étaient petits, elle est allée voir une voyante. Et que cette voyante lui avait dit qu'un de ses deux fils allait réussir dans la vie. Enfin, devenir quelqu'un. Je me suis permise de faire remarquer que, quel que soit l'un des deux fils, ils étaient déjà quelqu'un, a priori. Et ce quelqu'un, je vais m'y arrêter deux minutes, parce que quand il s'agit d'enfants, la plupart du temps, il s'agit aussi de ça. J'aurais bien aimé que le petit Julien, il regarde un peu moins de compétition à la téloche, qu'il enregistre un peu moins le message ambiant que pour être considéré, regardé, pour mériter l'attention, pour être apprécié, peut-être juste pour être aimé, il faut être le meilleur. Ça aurait été peut-être plus simple de vivre avec lui. Mais tout comme il aurait sans doute préféré que j'encaisse un peu moins de difficultés dans mon enfance, ça aurait été plus simple de vivre avec moi. Mais bon, chacun ses casseroles, déjà. On dit la bourse ou la vie. Ben moi j'ai déjà choisi. Je me fous du Marc et du Yen, je t'aime. Je me fous du prix Goncourt, je me fous des prix tout court. Les championnats, les grands chelems, je t'aime. Les conquérants, les gagneurs, ça me fait vomir, ça me fait peur. Je sais pas quelle folie les mène, je t'aime. S'ils bousillent ce qui restait des jardins qu'on habitait, s'ils tarissent nos fontaines, je t'aime. Mon amour, on mourira chacun notre tour, et y'a que ça qui me pose vraiment problème, je t'aime. Tu as rajouté le dernier mot à ma conférence, à mon tableau. Voilà. Ce serait bien qu'on arrête un petit peu avec ça aussi. On peut tous nous flinguer. Vous connaissez le mot équidignité ? Non, ben non, il n'existe pas en français, dans le dictionnaire. C'est Jesper Juul encore qui nous le ramène de sa langue danoise. C'est pas l'égalité, c'est l'équité en dignité. Avec cette question comme curseur, et moi, dans une même situation, comment est-ce que j'aimerais qu'on soit avec moi ? Quand on se pose cette question, ça devient tout de suite très simple de repérer où est-ce qu'on est dans la violence ou pas. C'est tellement dur à trouver ce fil-là tous les jours. On dit personne d'un âge respectable, vous savez. Moi, ça me pose question. La vulnérabilité des enfants devrait exiger qu'on les considère profondément, au même titre que n'importe qui d'autre, en fait. Alors voilà, moi je me demande un petit peu quand est-ce qu'on va arrêter de vouloir séquestrer les enfants dans l'enfance, d'une part, les laisser à cette place-là, et surtout qu'on ne bouge pas. Comment après on peut espérer vivre en démocratie quand il faut qu'ils attendent d'avoir je ne sais pas quel âge pour participer au monde ? Ah oui, là on peut lui faire confiance avant, non ? Comment faire tout ça ? Les enfants sont la propriété de personne, en fait. Et surtout pas de leurs parents. Mais vous savez, ce truc tellement ancré. Il est acquis, celui-là, là. L'autre jour, une petite fille, sans rigoler, hein, il y avait une dame qui était toute seule, une petite fille de l'école, qui passe comme ça, qui voit la dame. Elle est acquis, cette maman ? Excellent. Elle a retourné le truc en deux secondes, c'est très drôle. Ils sont pas irresponsables. Ils ont une notion de la justice, prendre que ça, par exemple, exacerbé, ni si inconséquent. Je sais pas si vous remarquez leur pertinence en plein de situations, ni si mignon, avec leur leurs petits pieds, leurs petits habits du dimanche, puis quoi alors, leurs petits droits et leur grande voix de respect. Je me demande quand est-ce qu'on va bien pouvoir les intégrer dans la danse pour qu'ils participent au monde au même titre que nous. Quand est-ce qu'on va leur accorder cette confiance-là ? Depuis tout à l'heure, je vous parle d'une posture individuelle qu'on peut essayer de chercher comme ça, avec toutes nos maladresses au quotidien. Mais bien sûr, si c'était si simple, hein, parce que comment ne serait-ce que nourrir la coopération, par exemple, chez les enfants quand ils passent une immense partie de leur vie à l'école, où tout est encore basé sur la compétition, ne serait-ce que ça. Je ne dis pas que l'école a tout acheté, je dis juste ça, par exemple, compliqué. Comment baser une relation sur l'écoute des besoins, tellement important quand, 2-3 mois après la naissance d'un enfant, une femme repart au boulot, et l'homme, j'en parle même pas, ou l'autre en tout cas, et après qu'il faut bosser 30, 40, 50 heures semaine pour ramener du fric qui manque, comment prendre le temps le soir quand on est pressé, essoré par son boulot, voilà. Et plus largement, comment faire confiance? Comment cultiver cette confiance dans les enfants et en nous-mêmes et dans la vie aussi, et prendre ce temps-là alors qu'on nous sert de la peur, de la peur, de la peur, tout le temps, partout. De la peur de perdre, de la peur d'être agressé, de la peur d'être... Et puis le speed, tout le temps. Voilà, il faut gagner du temps. Enfin, j'en passe, hein, je ne peux pas tout... Mais bon, tout ça est pris dans un bouji-boulka énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? En plus, on dit, faut pas crier, faut pas punir, faut pas taper, faut pas, mais on fait comment, en fait ? Parce qu'on n'a pas appris. Et au passage, c'est pas simple de donner, de transmettre ce qu'on n'a pas reçu. Alors, il y a des ateliers de parents, ne serait-ce que ça, des échanges. Se dire qu'on n'est pas tout seul à chercher, à galérer, à être devant les mêmes difficultés, que les enfants, ils ont des réactions, des comportements similaires et qu'on ne sait pas quoi faire. Juste échanger. Et ça apaise aussi, parce que c'est une bonne dose de cortisol, hein, d'être parent, quand même. Hein, ça charge. Il y a un numéro d'appel qui a été mis en place il y a quelques mois, voilà, qui est disponible à la sortie, pour le cas où ça serait trop difficile avec les enfants, dire « allô », juste pour avoir un peu d'écoute, pour s'apaiser un peu nous-mêmes. Bon, il y a des tas de choses, il y a des associations qui militent pour que cette loi qui a été déposée récemment, cette nouvelle loi, soit adoptée, pour que cette prise de conscience plus largement se fasse, en fait. De prendre conscience de tout ça, dans ma vie, ça a changé un tas de choses sur ma vision des gens, des conflits, des petits conflits, des gros conflits. Et je crois que, bien sûr, on n'explique pas tout par cette domination adulte, par ces violences ordinaires, mais tout de même, j'ai la conviction que tant qu'on ne déconstruira pas cette domination, n'importe quel changement de la société, qu'il soit lent ou rapide, sera récupéré par des prises de pouvoir pourries par certains, avant tout, parce que d'autres s'y soumettront inlassablement. Le papillu de Madeleine, de Marine Martine, un jour nous a posé très sérieusement la question, mais si vous continuez à être aussi gentil avec Madeleine, comment est-ce qu'elle va faire pour s'insérer dans la société ?
Alors, c'est effectivement pas une ambition, même si on essaie d'avoir aucune ambition pour Madeleine. Et ça, s'insérer, c'est un peu comme prendre la bague. Voilà, parce que le monde, il est cruel, il est absurde, il est inhumain, il est injuste. Ah non, c'est comme ça. Ça n'a aucune cause, il n'y a aucune issue. Constater la violence d'un monde et souhaiter conformer un être humain, pour Julien et moi, c'est pas un projet valable, ni pour un individu, ni pour une société, d'ailleurs. Je vais revenir un instant sur... l'eau chaude, vous vous souvenez, l'eau chaude, après l'eau chaude de la piscine d'accouchement, là. Nous, on a filé à l'hôpital. Quand on essaie de faire confiance dans cette posture-là, dans ces choix-là, ben, des fois, ça loupe. Voilà, c'est comme ça. Et pour préparer cet accouchement, on s'était nourri d'un imaginaire très différent de celui qui est véhiculé habituellement. On voit des femmes qui hurlent dans l'atroce souffrance. Pas que le cri soit un problème, hein. Le cri au moment du passage, bien sûr... Mais juste, on avait l'image de femmes qui traversaient la douleur dans de larges respirations. Ouais. Parce que la douleur est inévitable. La souffrance est optionnel. Ça, c'est une phrase que se répète Julien comme un mantra quand il court, vous voyez, en visualisant l'arrivée. Ce qui crée la différence entre les deux, c'est l'imaginaire. Alors, quand on se retourne vers ces quelques mots, on se demande un petit peu comment ça va se passer. Parce que ça ne va pas pouvoir durer très longtemps, le monde, comme ça. On le sait, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de tout ça. Il y a des endroits dans le monde où c'est déjà totalement effondré. Hein. Ici, on est un peu préservé. Pour combien de temps, je ne sais pas. Octobre 2018. Ma chérie, ce soir, je suis immensément triste de tout ce saccage. Triste et terriblement en colère. Et aussi, j'ai peur. En dehors de quelques utopistes qui pensent que le monde va pouvoir continuer comme ça, à fonctionner tel que nous le connaissons, on sait maintenant que tout va changer. Certains disent même que ça pourrait être brutal. Nous avons, depuis des dizaines d'années, vécu sur cette terre comme des touristes en pays lointain, en profitant de tout ce qu'elle offrait. Sauf que la terre n'est pas un pays, c'est notre seul pays, et nous n'avons pas de billet retour pour en partir en ne gardant que les belles images. Nous ne faisons rien aujourd'hui d'assez efficace pour espérer traverser ces changements profonds sans un chaos économique, énergétique, social, sanitaire, politique. Difficile d'imaginer ça par ce beau soleil d'automne. Je ne sais pas où nous en serons à l'heure où tu liras ces lignes. En me regardant dans le miroir, je me demande si j'aurai la force et le courage pour traverser tout ça. Mais je n'ai pas le choix. On m'a donné la vie et je t'ai donné la tienne. Mais je me demande surtout comment construire un monde plus désirable pour toutes ces années que tu as encore à vivre. Est-ce que ce ne serait pas notre plus belle chance, cet effondrement ? Je suis certaine que nous avons beaucoup à y gagner. C'est encore possible que quelque chose de lumineux découle de tout ce bazar. C'est cet imaginaire-là que je veux nourrir. Pardon, ma puce. Profondément, pardon. Je m'excuse aussi au nom de la génération de tes grands-parents qui n'y est au final pas pour grand-chose. J'aurais vécu comme eux si j'étais née 30 ans plus tôt. Une génération qui semble encore tellement inconsciente de ce qui s'annonce de manière pourtant assez prévisible. Des touristes en voyage sur Terre. Pardon d'avoir plombé un peu l'ambiance. Je ne crois pas que c'est en continuant à nourrir la loi du plus fort qu'on va pouvoir traverser les changements profonds. Qu'est-ce qu'on veut ? Tous s'étriper ? Moi non. Mais alors, comment on fait ? On essaye de cultiver la confiance, nourrir leur coopération, leur bon sens, leur sens critique, leur liberté d'agir, leur humanité, leur joie, leur empathie. Ouais. Et peut-être leur potentiel désobéissant pour désobéir à la violence de ce monde actuel et peut-être à venir. Moi, c'est ça en quoi je crois. J'ai conscience que c'est un grain de sable au milieu des défis qu'il y a à mener. Si on m'avait dit à 4 ans, la manière que tu auras d'être avec ta fille, tu sais, ce sera politique. Si on m'avait dit l'enfance est politique, j'aurais dit il ne faut pas pousser quand même. Là. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que si on changeait notre regard sur les enfants en une ou deux générations, on pourrait déjà faire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, c'est mon grain de sable et je peux faire que ça. J'ai conscience que c'est juste ça, mais je ne fais que ça. Et je vais finir en chanson. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages. Ne craignez pas les orages ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie inventée. Laissez-les, ils vont s'envoler ensemble. Un même ciel les rassemble, ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'il nous ressemble. Merci. CIDF, au planning familial, à la CAF, qui a rendu possible, qui a donné les moyens pour ça. Voilà, ceci est une conférence gesticulée, je crois. Tout le monde peut faire une conférence gesticulée. On a tous des choses à dire. C'est pas quelque chose réservé aux comédiens, hein. c'est un pur hasard que j'ai fait du théâtre. Au contraire, moins vous en avez fait, mieux c'est. Et comme on dit souvent après avoir présenté une conférence gesticulée, quand tout le monde aura fait sa conférence gesticulée, on n'aura plus besoin de faire des conférences gesticulées. Il y a des documents à la sortie, c'est ici, la bibliographie de la conférence, si ça vous intéresse, le listing des violences éducatives ordinaires, avec d'autres petites infos. Et puis j'y pense pas tout le temps, mais là j'y pense et je l'ai sorti, un petit livre. Si jamais voilà, vous avez envie de mettre quelque chose, une remarque constructive, une critique même, ou pas un bravo forcément, je ne cherche pas la récompense, ce que ça vous a fait. Parfois, quand je crois vraiment que c'est trop un grain de sable insignifiant ce que je fais, je lis le carnet, ça me rebooste un peu. Voilà, et je souhaite une bonne fin de soirée. Donc, c'est un petit peu pour discuter, il y a un petit peu pour discuter. Voilà.
Alors, on va essayer pour boire un coup ensemble et discuter entre nous tous.
Si jamais il n'y a plus de papier, je laisse un document sur mon ordinateur. Je mets votre adresse mail.
Ça ouvre des portes, hein? Ça ouvre des portes. Ah, mais j'allais demander, oui, justement. Parce que là, c'est vraiment bien un.
Oui, qui est le vin, là.